Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France. Pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur ce live. Ce soir, nous recevons la députée Céline Calves. Et c'est parti.
Bonsoir.
Est-ce qu'on
m'entend bien? Ouais, je vous entends, mais votre image est figée. Voilà, c'est bon.
Ça va?
Ok. Ouais, c'est parfait. Comment allez-vous?
Eh bien, très bien. Je suis ravie de participer à Place du Palais Bourbon aujourd'hui avec vous. Donc, je pense qu'on va passer plusieurs minutes intéressantes. En tout cas, je l'espère.
Ouais. Moi aussi, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Je vois des livres derrière vous. Ça ressemble à une bibliothèque de députés.
Exactement, ce n'est pas exactement la bibliothèque que j'ai chez moi. Hein. Voilà, donc effectivement, bonne déduction, je suis à l'Assemblée nationale. Cette semaine, c'est ce que l'on appelle ma semaine de permanence. C'est tour à tour les députés qui assurent une présence dans l'hémicycle. Aujourd'hui, cette semaine, je crois que je bénéficie d'une certaine chance. Aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une semaine de contrôle, donc il n'y a pas de vote en fait en tant que tel. Et donc, je peux suivre, et c'est ce que j'ai fait là à l'instant avant de prendre le lien avec vous. Il y a un débat en ce moment sur la vie associative. Mais en fait, comme on n'a pas de vote, autant pouvoir le faire depuis son bureau.
Ah d'accord, super. Alors ça, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que c'est peut-être des choses qu'on oublie en fait. Souvent, on sait que le Parlement fait la loi, mais le Parlement a aussi un pouvoir et un devoir de contrôle du gouvernement qui est très important. On en parle très peu dans la presse. Et pourtant, ça vous prend quoi, peut-être un quart de travail parlementaire, voire plus parfois?
Oui, parce que si on regarde quand arrivent les semaines de contrôle, ça revient effectivement à peu près à ce rythme-là. Mmh. On a en plus que l'on fournit au sein des commissions, et en tant que membre de la commission des affaires culturelles et d'éducation, je dois dire que nous sommes beaucoup aussi sur le travail de contrôle. C'est quelque chose que l'on fait peut-être en majeure partie, contrairement à d'autres commissions qui ont des textes, que ce soit des propositions de loi ou des projets de loi, très souvent, je pense à mes amis et commissaires aux lois, nous passons plus de temps sur le contrôle. Peut-être aussi parce que nos matières sont parfois plus réglementaires que législatives. Je veux parler de l'éducation notamment, où pour changer quelque chose dans l'éducation, tout ne passe pas par la loi.
On va faire le distinguo, on va expliquer, on va aller un peu davantage dans le détail parce que c'est aussi l'objectif de ce type d'échange, c'est de pouvoir faire de la pédagogie sur la vie parlementaire et sur la procédure législative et réglementaire. Lorsque Madame Calves parle de le domaine réglementaire, c'est le domaine à travers lequel le gouvernement légifère. Ce sont des textes qui sont pris par le gouvernement et donc là où finalement le Parlement n'intervient pas. Ça s'appelle le pouvoir réglementaire, voilà, pour ceux et celles que ça pourrait intéresser. Super, donc en ce moment, plutôt calme alors en ce moment, ou comment ça se passe à l'Assemblée?
Plutôt calme aujourd'hui par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais co-rapporteur d'une proposition de loi qu'on a votée vendredi. Ah. Et voilà, en tant que co-rapporteur, ça a été intense ces dernières semaines. C'est une proposition de loi qui vise à démocratiser le sport en France.
Alors, démocratiser, super actualité.
Donc très voilà, actualité qui résonne avec le fait qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup de pratiques sportives sont entravées par les conditions sanitaires, mais où on se rend compte aussi qu'on a besoin de sport, aussi bien dans son côté bien-être pour son corps. Quand on a été confiné, on s'est dit ah mais quand même c'est un peu voilà, on se dit qu'on aimerait bien bouger. Parfois d'ailleurs, certains ont pu découvrir les joies du jogging en cochant la case de la dérogation qui il y a un an nous permettait d'aller mettre le nez dehors, ben, c'était aussi les activités physiques. Ça a permis à certains de découvrir que c'était une vecteur de liberté. Et puis le lien social aussi qui existe, parce que c'est vrai que quand vous faites une activité sportive dans un club, vous allez croiser des personnes que vous ne croiserez pas dans votre famille, que vous ne croiserez pas dans votre profession. Et donc on a plutôt intérêt à faire que ces clubs aient les moyens d'accueillir cette diversité, parce que je pense que sur le terrain, les barrières sociales tombent. Et on a fait plusieurs fois l'expérience comme ça, donc il faut pouvoir le faire. Donc cette loi, on l'a votée en première lecture à l'Assemblée nationale vendredi. Elle propose de faire plus de liens entre le sport et l'école, entre le sport et les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc par exemple, que les personnes en situation de handicap ou les seniors dans les EHPAD, eh bien aujourd'hui les établissements auront une mission obligatoire de mettre à disposition des activités physiques et sportives. Et puis toute une série aussi de mesures sur la façon dont les collectivités locales peuvent rassembler autour d'elles tous les acteurs du sport et pas seulement les habituels. Et puis voilà, on aura aussi à cœur, quand on parle de la démocratisation du sport, c'est pas tellement...
C'est intéressant comme terme quand même.
C'était justement sous une double acception. Pour moi, c'était très important parce qu'on savait qu'on allait avoir des mesures pour favoriser l'accès de tous au sport, mais aussi des mesures pour faire que les instances de gouvernance du sport au sein des fédérations, qui sont des organes très puissants, qui rassemblent des millions de licenciés, eh bien que ça soit plus transparent, plus paritaire aussi. Et donc ça, c'est la vocation du titre 2 de cette loi. Et donc, on s'est interrogé forcément en tant que parlementaire sur la manière dont on pouvait accompagner ces exigences. Forcément, ça nous fait réfléchir aussi sur nos caractéristiques de parlementaires. On s'est posé il y a quelques années la question du non-renouvellement, enfin du non-cumul de mandat dans le temps des parlementaires. Ben là, voilà, on l'a mis aussi pour ces fédérations. On n'a pas réussi encore à le faire, puisque la loi constitutionnelle qui le conditionnait n'a pu aller à son terme, si on se souvient de juillet 2018. Mais là, on l'a fait, donc dans cette première lecture. Maintenant, il faut que ça aille au Sénat et que ça puisse être voté dans les prochains mois.
Du coup, le texte, d'après vous, a des chances d'aboutir au Sénat aussi ?
Oui.
Oui. D'accord.
Ouais, ouais.
Vous avez les éléments qui vous confortent.
Ouais. Et puis surtout, bravo. C'est pour ça qu'on souhaitait le faire. Au départ, si on revient au début de la législature, il y a eu des mis par la ministre des Sports, qui était Laura Flessel, l'idée d'un projet de loi qui puisse montrer les liens entre le sport et la société. Sauf que ce projet de loi, parfois, il a été entravé. Et moi, en tant que WIP, c'est-à-dire coordinatrice des députés de La République En Marche au sein de la commission, je me disais qu'on allait peu avoir d'occasion si on la provoquait pas nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que on a pu établir une stratégie pour faire de cette proposition de loi une véritable occasion de discuter, d'avancer. Peut-être pas autant que l'on aurait pu si on avait eu 40 articles, mais en tout cas ils sont bien là et ils ont été discutés et on a même eu des améliorations venant de bords différents pendant les discussions. Donc le pari est déjà gagné.
C'est intéressant. J'en profite pour revenir sur le rôle de rapporteur, que vous expliquiez un peu en quoi ça consiste concrètement.
Eh bien, en fait, rapporteur, vous êtes désigné par vos pairs pour garder un œil et donner l'avis de la commission. C'est-à-dire, c'est pas votre avis personnel de député, mais c'est l'avis de la commission. Donc, c'est de travailler aussi avec les autres députés, avec aussi les membres du gouvernement, quand on fait partie de la majorité en tant que telle. L'idée, c'est de voir avec les ministres, leur cabinet, quelles peuvent être les marges de manœuvre, de pousser pour certains arbitrages, mais de considérer que ce texte, il doit être... on va dire le plus propre possible, le plus précis possible. Et donc, c'est à chaque fois de donner un avis circonstancié, que ça soit en termes de, lors du passage en commission ou lors du passage en hémicycle. Et pour forger cet avis-là, nous devons multiplier les auditions. Alors bien sûr, comme là, c'est une proposition de loi qu'on a déposée au nom du groupe La République En Marche, on avait déjà quelques auditions de fait par plein de collègues différents dans leur groupe d'études, dans les missions parlementaires qu'ils ont pu faire. Mais le rapporteur est la personne qui garantit la bonne conduction du texte et qui donne ses avis aux côtés de ceux du gouvernement en hémicycle.
Sachant que, pour préciser aussi quelque chose qui est vrai dans les faits, si jamais le rapporteur émet un avis défavorable, le texte a, enfin les amendements typiquement, enfin, les éléments des articles du texte ont quand même peu de chances d'être adoptés par le reste de l'hémicycle, n'est-ce pas ?
Oui, alors normalement c'est le cas. On a vu aussi des cas où parfois on avait un désaccord entre le rapporteur sur une position, hein, pas sur l'essentiel du texte, mais le rapporteur ne partageait pas forcément l'avis majoritaire de son groupe. Donc ça n'a rien d'automatique. Et puis parfois aussi, on essaye d'éviter cela, c'est que quand vous êtes rapporteur et que vous êtes aux côtés du gouvernement, que les avis soient les plus cohérents possibles. Parce que si défavorable d'un côté, favorable de l'autre, ça arrive et on se l'autorise, heureusement, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on tient et on n'a pas réussi forcément à négocier, ou alors on se dit, écoutez, on va s'en remettre au vote de nos collègues. Et on essaye quand même de trouver la meilleure cohérence possible en amont.
Super. Et côté actualité, il y a récemment, vous avez sorti un rapport, moi, qui m'a beaucoup intéressée. Je voulais qu'on en discute un peu, si ça ne vous dérange pas, parce que c'est toujours d'actualité. Et c'est aussi, quelque chose qui me semble très important. Vous avez publié un rapport de mémoire en septembre, c'est bien ça ? En septembre 2020, sur la place des femmes dans les médias pendant la crise du Covid-19. Oui. Quels ont été les résultats de ce rapport, en quelques mots, les principaux résultats ?
En quelques mots, c'est que déjà, on manquait de chiffres et que quand on commençait à compter, on se rendait compte qu'il y avait eu véritablement un décrochage dans la part de l'expression des femmes dès le début de la crise. Et les chiffres sont assez parlants. Je vais vous en donner un. Sur les JT d'une grande chaîne de télévision publique, il n'y en a pas 500, on était passé à 9% d'expertes féminines, contre habituellement 35 à 40%. Ça veut dire que début mars, ça c'est pour tout le mois de mars, au mois de mars, on ne s'est pas rendu compte parce que le caractère de la crise était éminemment inédite. Elle était en plus teintée de scientifiques et pour avoir fait un rapport en 2018 sur la place des femmes dans les sciences, on cumulait un peu de ce côté-là parce qu'on n'a pas non plus une pleine visibilité donnée aux femmes dans ces domaines. Bonjour monsieur. Et en fait, ça cumulait. Mais si on ne regarde pas ça, on pouvait avoir cette impression qu'il y avait moins de paroles aux femmes, ou en tout cas que leurs paroles étaient anonymisées, étaient délégitimées. C'est-à-dire que ce n'était pas les paroles des expertes, c'était la parole de la témoin de la rue. Et à la rigueur, on ne lui donnait même pas la parole, on la montrait comme ça. Alors qu'on a vu que les femmes étaient en première ligne, notamment dans les métiers du soin. Bien sûr. Il y avait cette impression, mauvaise impression, et ce qui nous a fait réagir notamment, et ce qui a déclenché la mission en tant que telle, c'était la une du Parisien du 5 avril, où on avait les hommes, quatre hommes, qui allaient nous raconter l'avenir, et puis les femmes, il fallait juste se dire que bon, on nous laisserait peut-être une place, mais et donc c'était profondément choquant. Il y a eu beaucoup de réactions, il y avait eu des réactions avant, mais suite à cela, ça a vraiment déclenché la mission confiée par Marlène Schiappa, qui avait dû déjà demander à ce que l'on puisse regarder plus précisément ce qu'il en était au niveau des experts, mais qui n'avait pas forcément eu les réponses qu'elle voulait à ce moment-là. Donc le déclenchement d'une mission du gouvernement a permis de fixer des chiffres, de fixer des constats qui sont parfois valables aussi en dehors des périodes de crise, parce que bien sûr, ce que nous avons pu déduire dépasse la période de crise et dégage des solutions qui peuvent aussi alimenter en dehors des crises, parce que la situation est loin d'être satisfaisante aussi hors période de crise.
Bien sûr, c'est juste exacerbé pendant les crises, c'est certain, mais du coup, quelle est la suite qui a été donnée à ce rapport après l'avoir présenté actuellement? Qu'est-ce qui se passe plus concrètement? Est-ce que ça a donné lieu à des mesures concrètes? Est-ce que ça va donner lieu à des mesures concrètes?
Oui, complètement, parce que l'idée d'un rapport, si c'est juste pour faire un constat, c'est un peu compliqué. Et si c'est juste pour avoir des préconisations qui restent lettres mortes, c'est compliqué et c'est très décevant. Là, on avait des préconisations qui s'adressaient aussi bien aux institutions, donc le gouvernement, mais aussi des autorités administratives indépendantes, comme le CSA, qui fait un travail depuis des années sur la question également. On s'adressait aussi à des préconisations en rapport avec les médias, hein, à la main des médias eux-mêmes. Nous avions aussi ainsi comme ça 26 préconisations. Alors des premières préconisations ont été très rapidement mises en œuvre. C'est notamment le fait de pouvoir soutenir l'initiative du guide de l'annuaire des expertes, lesexpertes.fr, qui existe. Dont parfois les journalistes avaient honte de dire qu'ils l'utilisaient, parce que parfois pour certains journalistes il était mieux vu de dire que c'était dans leur carnet personnel qu'ils avaient trouvé ces experts. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on a 3000 expertes comme ça dans des domaines vraiment très différents qui sont exposés. Donc on ne peut plus entendre de la part des médias qu'on ne trouve pas de femmes. Il suffit juste de le chercher ici et de pouvoir les inviter. Mais il fallait aussi donc il fallait pérenniser cette démarche. C'était le financement était vraiment en péril. Donc dans notre rapport, et on l'avait soulevé dès l'étape du mois de juin, où moi je voulais faire un rapport d'étape pour pas qu'on laisse sous le tapis les choses. Et donc j'avais vraiment précisé et soutenu cette initiative. Non seulement ça a fait que Le Monde ou Ouest France, qui sont quand même des médias importants dans la presse écrite, ont abonné l'ensemble de leurs journalistes, mais ça a décidé aussi des médias publics comme privés à pouvoir aussi les soutenir, et au gouvernement aussi d'y mettre du financement. Donc ça, c'est quelque chose de très concret et qui est arrivé, je pense, 2 mois après la remise du rapport. Ensuite, il y a eu la prise d'un décret qui rentre dans les conditions qui vont... qui vont régler les relations de convention entre les médias et l'État. Donc ça, c'est à l'encadre. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'on aille plus loin. Et les deux ministres en charge actuellement de l'égalité et de la culture ont confirmé la semaine dernière par un communiqué commun que sur les 26 préconisations, elles en retenaient 24. Il y en a deux qu'elles ont écartées. L'une consistait en la mise en place d'un observatoire. Et je peux le concevoir, parce qu'on peut trouver de quoi concentrer les chiffres et les bonnes pratiques autrement. Et puis une autre était sur la rétroactivité des aides données par le CNC pour la production d'œuvres qui parfois peuvent aller à l'encontre d'une égalité. Donc le côté rétroactif a moins été retenu, mais les 24 autres le sont. D'accord. Donc les 24 autres vont être mis en place, et moi je tiens à ce qu'on puisse en approfondir une dans les prochains mois très, très rapidement, c'est celle de l'égaconditionnalité des aides à la presse. Aujourd'hui, vous avez, pour préserver le pluralisme des médias, des aides qui sont distribuées par l'État. Pourquoi ne pas imaginer, alors, en premier lieu, un bonus accordé aux médias qui mettent en place des chartes et des politiques de formation, de sensibilisation, qui font des efforts, qui comptent leurs efforts aussi. Et donc ça, c'est une logique d'incitation. Mais une logique d'incitation, au bout d'un moment, elle peut aussi être complétée d'une logique de contrainte et de faire que finalement, on ait atteint un certain niveau de reconnaissance de la place des femmes à l'intérieur des médias, c'est-à-dire au sein de la rédaction, et qu'on prête attention aussi au contenu. Tel qu'on l'a pensé, c'est de manière progressive. D'abord les bonus, et d'abord sur la place des femmes à l'intérieur des organisations, mais après on pourrait imaginer d'aller plus loin avec un système de contraintes, et puis une obligation, pourquoi pas, à compter ce qu'il y a dans les contenus. Ce n'est pas aller à l'encontre de la liberté d'informer, c'est très précieux, mais je pense que ça n'empêche pas de pouvoir compter ce qu'il en est. À partir du moment où des médias le font, j'ai déjà cité Ouest France pour autre chose, mais je vais les citer parce qu'il y en a très peu quand même en France qui le font. Ouest France le fait, le Temps en Suisse le fait également. Ils prennent des décisions de se rattraper, et ça va plutôt dans le bon sens ensuite de leur qualité de contenu. Donc tout le monde y gagne.
Ouais, c'est intéressant, effectivement. Est-ce qu'une mission analogue pourrait être mise en place à l'Assemblée nationale sur la place des femmes en politique, par exemple ?
Alors, on pourrait le faire et ce serait intéressant de le faire notamment sur la place des femmes en politique au niveau local. Il y a eu des avancées. Aujourd'hui, par exemple, alors prochainement, on va y avoir les élections départementales. Et en fait, on a un système de binôme femmes-hommes qui font que dans l'assemblée du conseil départemental, on arrive à une parité.
La liste, par contre, les listes Chabada, c'est ça?
Alors, je ne sais pas si c'est les listes Shabada, mais en tout cas,
on doit présenter un homme et une femme. C'était le petit surnom de cette réforme.
Ben, en tout cas, c'est une réforme qui a fait qu'aujourd'hui, on trouve de la parité. Par contre, là où on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est que la distribution des vice-présidents, bon, on est encore loin de la parité. Donc, il faudrait investir ces sujets-là. C'est pareil aussi en intercommunalité. Dans les intercommunalités, vous n'avez pas forcément de traduction de ce que sont les conseils municipaux aujourd'hui dans la distribution des postes à responsabilité. Donc ça, je crois que il y a des projets à ce sujet. Après, on pourrait aussi regarder ce qu'il en est au niveau de l'Assemblée nationale plus particulièrement. Absolument. Aujourd'hui, on peut se réjouir qu'on ait 40% de députés femmes. On en était quand même loin, même au mandat précédent. Oui, pardon, je fais des arrondis qui sont un peu trop faciles. Donc, presque 40%, 38%. Je crois que le mandat précédent, on était à 25 ou 26, quelque chose comme
ouais,
ça.
Ouais, 27, je crois, de mémoire, ouais.
Alors que les règles qui encadrent la parité sont les mêmes. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des partis qui ont décidé d'être un peu plus volontaristes, qui ont décidé d'investir des candidates sur des circonscriptions qui étaient gagnables et pas seulement celles qu'on était sûr de perdre, hein, juste pour éviter une amende.
Oui, alors après, si je puis me permettre juste une petite critique un peu objective hein, de cette circonstance-là, La République En Marche était un parti qui ne savait pas encore quelles étaient les circonscriptions gagnables ou pas, en réalité. Pas comme le Parti Socialiste ou les Républicains qui savaient déjà, si on envoie une femme dans cette circonscription, on sait très bien qu'elle n'est pas gagnable. C'est un peu moins vrai pour La République En Marche. Et je pense que ça a aussi ça crée de bonnes surprises, certainement.
On était sur une offre nouvelle. Donc, en fait, tout était gagnable, en fait. Puisque rien n'était perdu.
Potentiellement, oui, tout à fait. Ouais.
Mais je pense que quand même, il y a eu une analyse et ça a notamment conduit le travail de sélection qui avait été fait dans le cadre de la CNI. Hein. Je ne sais même plus ce que ça voulait dire, mais la Commission nationale d'investiture. Il y avait cette exigence qu'on soit sur des profils variés où l'équilibre soit fait, mais on prenait aussi en compte sur quel terrain potentiel on pouvait nommer la personne. Bah, parce qu'en plus, on essayait de trouver quelque chose qui était de l'ordre de l'adéquation. Enfin, il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte. Sûr. Est-ce que sur 2022, ça va se passer autrement? Forcément, ça se passera autrement parce que l'expérience de 2017, et alors pour l'avoir vécu à plusieurs titres dès 2016, ben jamais on pourra revivre quelque chose d'aussi surprenant par rapport à ce qui avait été prédit, d'aussi exaltant également. C'est quelque chose d'inédit. Il y a eu des exigences aussi qui étaient dès le début du mouvement, avant même de penser à des éventuels candidats. Moi, j'ai fait partie on était une centaine de référents et référentes, et l'idée était d'avoir autant de femmes que d'hommes, en fait, déjà, d'avoir cette exigence-là, alors qu'on était, beaucoup moins de candidates à la structuration du mouvement que, pour vous donner un exemple, au mois de donc fin août, il y a un appel à volonté, on va dire candidature, c'est pareil, fin août 2016.
Ouais, je voulais en parler justement de cet appel.
Ah oui, bon, bah, pardon. Alors.
Non, je vous en prie, allez-y, je l'ai trouvé très intéressant justement.
Ben, en fait, donc on est en septembre 2000, fin août, septembre 2016. Le mouvement a été créé en avril, peut se baser sur la mise en place de comités qui sont spontanément créés par des personnes qui veulent porter le projet d'En Marche et avec dans l'idée aussi le projet d'Emmanuel Macron pour les présidentielles, même si ce n'était pas encore déclaré. Hein, il y avait beaucoup de volonté derrière ça. Il y a eu 10 000 réponses. On ne savait pas pourquoi. Enfin, c'était aidé à la structuration du mouvement. Donc, c'était un mouvement qui était en création. Il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas d'habitus de créer. Sur les 10 000 réponses, il y avait uniquement 1 000 réponses femmes. Wow, et pour autant, oui. Il fallait aller trouver autant de femmes que d'hommes à monter des comités, à prendre le rôle de référent au niveau départemental ou, comme moi, au niveau d'arrondissement. Mm-hmm. C'était... On ne savait pas où on allait. Mais ce qu'on savait déjà, c'est qu'on n'était sans doute pas beaucoup de fans. Et moi, je l'ai su après, parce que je n'étais pas vraiment impliquée dans le mouvement pour savoir cela à ce moment-là. Mais par contre, on nous a dit que le rapport de 1 à 10 était compliqué. Quand on appelait en plus les femmes qui avaient candidaté, quand on leur expliquait qu'on aimerait bien leur confier le rôle de référent et qu'il y avait derrière ça un travail de coordination des différents... des animateurs de comités sur un territoire qui auraient un lien avec les élus locaux, parce qu'il fallait aussi se dire qu'il y avait des parrainages à récupérer, mais aussi un lien avec la presse. Certaines femmes se sont dit « non, mais en fait, je ne pourrais pas le faire ». Moi, j'ai sauté dessus parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc, au pire, c'était quelque chose qui allait se construire. Donc, voilà. Et je ne me rendais pas du tout compte à ce moment-là que ça allait faire que quelques années plus tard, je parle avec vous. Dans
un ouais, c'est intéressant ça.
C'était pas concevable en fait. Moi, je le faisais vraiment parce que j'avais pas envie de me retrouver au mois de mai avec un résultat que je n'aurais pas apprécié et juste de m'être dit bon bah c'est bien, j'ai voté, mais j'ai pas forcément fait plus pour empêcher ce résultat. Voilà, je voulais, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, super exaltant. J'ai rencontré des gens formidables que parfois j'ai revus à l'Assemblée. Et c'est inédit, je pense qu'on n'a pas encore complètement le recul dessus.
Alors c'est marrant parce que cet appel dont vous parliez tout à l'heure, l'appel donc d'Emmanuel Macron à ce que des femmes se portent candidates, moi, très sincèrement, quand j'avais vu ça, j'étais un peu partagée. Je trouvais l'initiative très intéressante et encourageante. Et je me disais, c'était quand même un beau coup de com' et je savais pas si ça allait vraiment avoir des résultats concrets, en fait. Et c'est marrant parce que après, avec le temps, en discutant avec de nombreuses députées, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais de mémoire, c'est le cas de Fiona Lazar, c'est le cas de Paola Forteza, qui ne sont plus LREM, mais peu importe, qui ont quand même porté les couleurs du parti pour les élections, qui ont dit, en fait, si je me suis lancée, c'est parce que j'ai répondu à cet appel. Donc, ça a vraiment créé des vocations. C'est chouette. Enfin, moi, c'est vrai que c'était un gros coup de com', finalement. Concrètement, il y a eu des résultats intéressants.
Oui. Et à cela, j'aurais deux ajouts. En fait, l'appel dont je parlais en septembre, c'était pour le cadre du mouvement En Marche. Et en fait, l'appel lancé par Emmanuel Macron, c'était au mois de janvier.
C'était pour les législatives.
Voilà, on était au mois de janvier. Il y avait vraiment la marche à la campagne et l'idée qu'il fallait assurer au président une majorité, mais que cette majorité, il fallait qu'elle soit renouvelée, pertinente, enfin pleine de talents et qu'il fallait aller chercher. Et c'est vrai que quand ça a été ouvert, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc, on retrouvait justement l'état de fait qui avait été celui de septembre pour susciter l'engagement dans la structuration du mouvement En Marche. Moi, ça n'a pas fait écho chez moi. Moi, j'étais déjà dans le fait qu'il fallait faire élire Emmanuel Macron au mois de mai et je ne me sentais pas concernée par le fait de devenir députée. J'avais tellement intériorisé que les députés, c'était d'autres personnes, que je ne me suis pas sentie concernée. Sauf que, pour accompagner cet appel, on avait mis en place, alors c'était Véronique, une autre référente, qui avait dit, bon, bah, c'est très bien, notre candidat appelle, mais il va falloir débloquer ce qui pourrait encore bloquer des femmes à passer le pas, leur donner des clés sur la façon dont la vie politique peut avoir des conséquences heureuses ou parfois inattendues et malheureuses sur leur vie, et de les accompagner là-dessus. Donc, on avait organisé deux sessions au siège de La République En Marche, enfin, qui s'appelait En Marche quand même à l'époque, et on se disait on va faire deux sessions un dimanche matin, on va prendre quelques coachs qui vont aider les femmes qui vont s'inscrire, sauf qu'en fait il y en a eu à chaque fois 200 qui se sont inscrites, et moi je participais à l'une d'entre elles, mais en tant que coordinatrice, c'est-à-dire de dire bon bah voilà, Et en fait, là, pour moi, ça a été un déclic parce que le témoignage des femmes qui avaient fait la démarche de venir jusqu'ici et qui se projetaient dans la fonction de candidat et de député, en fait, en les entendant, je me suis dit, mais en fait, j'ai autant, sinon plus, d'expérience à apporter en fait, à ce mouvement. C'est-à-dire que quand je les ai entendues, je me suis dit, mais en fait, j'ai des choses et j'ai sans doute aussi des envies. Et ça a été... Dans l'échange, en fait, plus que l'appel, ça a été assez déterminant. Mais après, le fait de déposer son dossier de candidature, eh ben, on le pense, on se dit qu'est-ce que je vais dire, et c'était quand même assez complet. C'est vraiment plutôt ces moments-là qui, pour moi, ont été déterminants, et je crois que ça l'a été chez plusieurs participantes. Je crois que vous avez reçu Alban Gaillot très récemment.
Tout à fait, qui faisait partie de cette personne.
Et ben oui,
des personnes qui ont été appelées, justement, enfin, qui ont répondu à l'appel. Ouais.
On était dans ce groupe. Moi, la première fois que j'ai vu Alban, qui était investi dans le mouvement En Marche en Val-de-Marne, la première fois que je l'ai rencontré, c'est dans ce petit groupe de, je pense qu'on était 8, et que voilà, que j'étais chargée d'animer pour que les discussions se fassent. C'était assez symbolique ensuite de se retrouver parce que c'était un moment clé. Donc non seulement il faut de la volonté, il faut de l'accompagnement, et puis une fois que l'accompagnement est là, je crois qu'on arrive à dépasser pas mal de choses. Il faut avoir une attention mais à tous les niveaux, c'est-à-dire que si on a réussi à le faire, par exemple, au niveau des présidences de commission, on est paritaire, parce qu'il y a eu une volonté de faire que ce soit paritaire. Si on avait fait autrement, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu. Là, on disait, bon, ben voilà, si une commission si on a un élu homme, la commission d'à côté, ce sera forcément une femme. Et donc, il faut instituer des règles comme ça pour s'en assurer. Sans règles, on peut toujours compter sur la bonne volonté, mais on ne sera pas forcément là pour récolter les fruits de cette bonne volonté, parce que ça prend du temps et qu'à un moment, il faut mettre des règles.
Ouais, il faut pousser un peu, faut forcer un peu les mœurs parfois à évoluer, c'est ça l'idée. Je voulais juste vous poser une petite question, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant et qu'on remarque régulièrement. Vous parliez tout à l'heure du fait que vous avez eu un déclic en entendant ces femmes parler de ce qu'elles pouvaient apporter au mouvement, etc. Est-ce que vous étiez un peu dans l'autocensure par rapport à imaginer d'accéder à la fonction de députée? Très souvent, beaucoup de femmes me font de femmes en politique me font cette remarque et partagent aussi cette conviction qu'il y a un problème de légitimité pour la femme lorsqu'elle doit embrasser une carrière politique, en gros. Est-ce que vous avez vécu ça, vous aussi?
Moi, je pense que déjà, j'étais très mue par mon activité professionnelle, que je mettais un petit peu en parenthèse en me disant « Allez, hop, on le fait jusqu'au mois de mai comme ça, puis après, tu mettras les bouchées doubles. » Voilà, en tant que chef d'entreprise, j'avais cette liberté aussi de prendre mon risque. Donc, il y avait cette perspective-là. Après, je vais revenir un petit peu en arrière. Pour moi, la vie politique, et notamment dans la Chambre des députés, c'était plutôt des vieux hommes, quoi. En 2000, début des années 2000, moi j'ai fait un mémoire que je destinais au départ sur les liens entre la communication et la politique. J'étais au CELSA et je m'orientais plutôt sur dans la prolongation de mes études de droit et de sciences politiques sur un aspect plutôt communication publique et politique. Je m'étais intéressée à diverses créations, notamment les chaînes parlementaires, en me disant elles étaient toutes neuves. Mais elles étaient tellement neuves justement que c'était difficile d'organiser un mémoire dessus, il n'y avait pas assez de recul.
L'élément, ouais.
Et donc au fur et à mesure, j'ai dû resserrer mon sujet et je suis arrivée à étudier la façon dont les retransmissions des questions d'actualité au gouvernement se passaient et comment on l'exploitait et comment c'était reçu par les Français. Donc à l'époque, j'étais avec mes VHS que j'étais allée chercher chez France Télévisions et donc ce que je voyais dans l'écran, c'était des hommes dans lesquels je ne me reconnaissais, mais pas le moins du monde, en fait. C'était une autre catégorie, leur âge, leur sexe, leur façon de parler, sans doute. Voilà, donc à aucun moment je me suis dit ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'étudiante que j'étais à l'époque regarde les questions d'actualité au gouvernement, elle s'y voit sans doute un peu plus, parce qu'elle voit des femmes. Elle voit des femmes plus âgées, plus jeunes. Mais en tout cas, voilà, si une étudiante veut faire un travail sur les retransmissions des QAG, ça ne sera forcément pas du tout la même perception, parce qu'aujourd'hui, les femmes y sont. Donc moi, je pense que, pour en revenir sur la question de l'autocensure, en fait, c'est la société qui censure, c'est pas l'autocensure. C'est-à-dire que si la société ne montre pas que c'est possible, je ne m'autorise pas.
Des rôles modèles, en quelque sorte.
Voilà.
C'est un peu ça, ouais.
Et ça, c'est partout. Et c'est pour ça que le travail sur les médias et la représentativité des femmes dans les médias est très importante, parce que c'est dans la façon dont on va voir les femmes artistes, les femmes politiques, les femmes scientifiques, d'offrir en fait un panel de choix pour les femmes. Et pour moi, les médias en sont, quels qu'ils soient, hein, traditionnels, pas traditionnels, etc., jouent un rôle déterminant. Parfois, on a certains médias qui m'ont dit « Oui, mais vous comprenez, dans cette sphère-là, le pouvoir est aux hommes, donc je montre des hommes. » J'ai dit « Mais en fait, vous ne faites que refléter une inégalité. Vous devriez aussi ne pas nier l'inégalité,
la réalité, bien
et
sûr.
Montrer qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin... qu'on les encourage en leur donnant un peu de lumière, en leur montrant, en montrant aux autres qu'elles ont de la valeur. Et bien, c'est aussi votre boulot, c'est de refléter ce que la société n'arrive pas encore à faire aussi.
Ouais. Et ça, c'est très difficile. Hein. C'est marrant, je partage avec vous une information que Manon Aubry a partagée sur le podcast, l'autre podcast Popol, où vous interviendrez bientôt d'ailleurs. elle nous disait que pour la semaine de la journée des droits des femmes, ils avaient décidé, donc, au sein de la France Insoumise, de n'envoyer que des représentantes dans les médias pendant toute une semaine. Eh bien, le résultat, c'est que la part de visibilité de la France Insoumise dans les médias a été divisée par deux. Il y a eu deux fois moins d'invitations. Alors, du coup, au lieu d'inviter quelqu'un de la France Insoumise, ils sont allés inviter quelqu'un d'autre, au lieu d'inviter une femme, parce qu'ils voulaient les poids lourds. C'est quand même dingue, quoi.
Y a le réflexe du bon client. C'est-à-dire que quelqu'un que j'ai déjà vu qui me répond rapidement, je vois pas pourquoi j'irais chercher quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène et je le comprends, et c'est ce que j'ai expliqué aussi à certaines expertes qui pouvaient s'émouvoir qu'on les appelle au dernier moment. Je dis, mais il faut comprendre aussi les contraintes qui sont celles des médias. On peut pas vous prévenir une semaine à l'avance. Enfin, non, certains médias, oui, sur les médias chauds, ça va être. Donc il faut comprendre. Et vraiment l'expliquer, mais il faut aussi inviter les programmateurs, les journalistes, et dire c'est pas possible, renouvelez votre carnet. Enfin, vous n'allez pas me dire que je sais qu'il est toujours là, et puis il commande tout, donc c'est bon. Ah bah super. Le bon client, il faut aussi être exigeant, mais pour ça veut dire que les journalistes doivent dégager du temps pour aller explorer, rencontrer en amont des expertes qu'ils vont pouvoir peut-être recontacter trois mois plus tard, mais il y aura eu un lien de confiance qui aura été fait. Moi, effectivement, quand on m'appelle et on me dit « bon, c'est dans 10 minutes pour parler de je ne sais pas, mais venez », ben franchement, j'ai autre chose à faire, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas... Après, je m'estime, et c'est ce à quoi j'invite aussi les femmes en général, en disant « réponds pas pour toi, réponds pour les autres, parce qu'après ton refus, on va appeler un homme. » Donc,
C'est clair. Faut essayer de choper la place quand on peut, en gros, c'est ça, s'imposer un peu dans le décor, quand on le peut, comme on le peut, c'est clair, c'est bien résumé. On peut parler de vous un peu, Céline Calvez, s'il vous plaît ?
Ouais, bien sûr.
Je voulais connaître votre histoire un peu, savoir ce que vous faisiez, on a compris un peu comment vous aviez accroché à La République En Marche et vous aviez développé le projet de manière un peu consubstantielle à la création du mouvement, hein, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous faisiez avant ça ?
Et donc avant ça, j'avais fondé ma société de conseil en communication. Avant ça, je travaillais pour des agences de communication, mais j'avais vraiment éprouvé le besoin d'être indépendante. Je pense que ça m'a permis aussi de mieux concilier la construction de ma famille. Je pense que j'aurais pas, j'aurais pas été aussi zen et en tout cas maître de mes choix si j'avais été en agence. Là, au moins, je pouvais me dire, bah non, je travaille pas le mercredi parce que j'ai envie de passer du temps avec ma petite, j'ai envie de l'emmener au bébé nageur et puis je prends sur moi, c'est pas grave, je bosserai un jeudi soir et puis voilà. Donc, je pense que ça a été plutôt salvateur de ce côté-là. Et avant de travailler dans les agences de communication, j'ai eu une expérience politique au sein d'un cabinet. J'y suis arrivée pour faire un stage et j'y suis restée pour mon premier boulot. Mon stage, je voulais faire mon stage en rapport avec mon mémoire. Ce que tout le monde rêve de faire, c'est toujours au mieux. Et moi, je m'intéressais, autant l'année précédente, je m'étais intéressée finalement à la retransmission des questions d'actualité au gouvernement. Là, cette année-là, je voulais m'intéresser à la participation des habitants dans le cadre de la politique de la ville, avec cette idée toujours d'explorer la démocratie participative. Et dans le cadre de la politique de la ville, ça avait été peut-être le plus exploré. Enfin, concrètement, on avait des exemples en France. Et c'est un vrai défi parce que on doit dire, bon, tu dois participer aux décisions, mais t'es pas expert. Non, en fait, si, l'habitant, il est expert. Il faut juste lui reconnaître cette expertise et il faut l'aider à pouvoir l'exprimer. Et je trouve qu'il y avait, moi, je trouvais ça passionnant. Mais je ne savais pas dans quel instance le faire. Est-ce qu'il fallait le faire dans une ville qui avait des quartiers politiques de la ville? Est-ce qu'il fallait le faire à la délégation interministérielle de la ville? Mais de fil en aiguille, on m'a dit, mais pourquoi vous ne le feriez pas ici au cabinet du ministre? Moi j'avais fait un stage l'année précédente dans un autre ministère, donc je pensais avoir fait le tour, sauf qu'on me dit non, vous avez fait un stage dans la partie administrative du ministère. Là, on vous propose une expérience de cabinet.
Ouais. Qui est très politique.
J'avais un peu de réticence que c'était pas forcément mon orientation politique, mais d'accord. Je me dis, bon, pour un stage, on va regarder.
Je peux vous demander avec qui c'était, du coup ?
Oui, bien sûr, c'était avec Jean-Louis Borloo. Et c'est d'accord. Intéressant parce que sa façon d'appréhender le dialogue avec, peu importe, tu viens de gauche, de droite, tu viens du mouvement associatif, tu viens du monde de l'entreprise, je l'ai vraiment vécu, notamment sur la question, alors on n'appelait pas ça encore à l'époque, mais on a fait cette bascule-là, l'égalité des chances. Et moi, j'ai trouvé génial dans la démarche du ministre, c'était de réunir justement des personnalités du monde politique, associatif ou économique qui avaient différentes histoires, mais qui étaient tous issus de l'immigration. Mmh. Et donc, dans cette question d'intégration, alors on appelait ça à l'époque intégration des populations issues de l'immigration, hein, on a fait du chemin quand même en 20 ans, mais pour moi, ça reste un souvenir formidable que des ponts pouvaient être dressés, en fait, comme ça, entre des personnes qui partageaient pas forcément les mêmes convictions, qui partageaient un vécu, alors parfois qu'ils l'exprimaient d'une manière très émotive, donc c'était émouvant pour nous aussi. Mais je travaillais aux côtés d'un conseiller qui encadrait ces discussions, et du coup, comme on n'avait pas terminé à la fin de mon stage, je me dis, on continue. Et donc, pour moi, ça a été... ça m'a plu parce que c'était éminemment transversal. Dans les quartiers politiques de la ville, vous traitez aussi bien d'urbanisme que d'économie, de santé, d'éducation. Et ça, franchement, ça m'a plu. Et je pense que c'est aussi ce qui me caractérise, c'est que j'aime bien faire des liens entre ce qu'on considère à part. Non, il y a toujours... Voilà, moi, j'adore faire ça. Donc ça a été une expérience, sauf que je me suis rendu compte que, par contre, il y avait un domaine dans lequel je ne connaissais rien du tout et qui me manquait, c'était l'économie. Il me manquait clairement un bagage économique et donc c'est pour ça que je suis allée dans le domaine de la communication et là ça a été une vraie plongée dans le monde de l'entreprise qui n'était pas du tout ce que je connaissais même familialement et en fait quand vous êtes dans une agence et que vous êtes sur différents dossiers, en fait vous basculez d'une culture d'entreprise à une autre, vous pouvez être dans l'industrie puis ensuite dans les services, à un moment vous allez travailler pour une fondation et ça vous fait une mise à jour et une vraie gymnastique intellectuelle, moi qui m'a plu, c'était éreintant sur d'autres choses, mais intellectuellement je n'ai jamais eu à ce moment-là l'envie de reprendre mes études, j'étais en études permanentes. Et sur des enjeux qui étaient stratégiques, comprendre comment la communication financière doit être pesée, comment les RH prennent en compte la diversité. Je pense que ça fait partie de mon parcours et de ma manière d'appréhender aussi maintenant les choses. Parce que j'ai vu comment au sein de l'entreprise et au sein d'entreprises qui étaient assez en avance sur leur temps, comment ça se traduisait, comment c'était joué aussi sur la valeur même de l'entreprise, de ses talents. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire, professionnel. Et avant, j'ai fait des études de droit, de sciences politiques et de communication.
D'accord. Donc maintenant, députée, Quel est votre plus grand combat en tant que député?
Plus grand combat, alors là, c'est assez généraliste, ça va aller dans le sens du transvers, c'est l'émancipation. C'est en gros le grand combat que je sois née ici, née femme, née homme, que je sois de telles conditions sociales que je puisse avoir le choix. Et pour avoir le choix, il faut déjà qu'on me l'éclaire et qu'on me le rende possible, c'est-à-dire qu'on ne me mette pas dans des cases. Et donc c'est pour ça que je me suis inscrite dès le début du mandat dans cette commission qui est celle de l'éducation, de la culture, de la vie associative, du sport et de la recherche. Parce que pour moi, ce sont les clés. Enfin, moi, j'ai eu à cœur toute ma vie d'essayer de construire mes choix et justement de ne pas être dans un certain fatalisme. Moi, je me souviens que les premières fois où on m'a parlé de Bourdieu et on m'a parlé d'une assignation comme ça à résidence et la reconduction et la reproduction de différences sociales, j'étais au collège et je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible en fait. Et donc, ça a dû faire naître une envie que non, tout soit pas écrit en fait. Et donc, si c'est pas pour moi, ça ne doit pas l'être non plus pour les autres. Donc, c'est pour ça que moi, l'éducation, je m'y intéresse beaucoup. Peut-être aussi parce que j'ai une maman anciennement institutrice. J'ai baigné aussi dans ce profond respect de l'école.
Oui, bien sûr, mais de l'école républicaine.
Ouais. Oui, avec un goût pour l'école républicaine qui doit jouer son rôle d'émancipation, mais aussi de cohésion. Et donc, je suis très attachée à ça. Ça détermine effectivement, donc c'est un combat qui n'est pas précis. On pourrait se dire que j'ai des collègues députés qui se font dans la précision. Moi, ça ne me ressemble pas. Par contre, j'essaye à chaque fois de l'insuffler. Je suis membre de la délégation droits des femmes. On a parlé des travaux par exemple sur la place des femmes dans les médias ou la place des femmes dans les sciences. Eh bien, à chaque fois, c'est d'essayer d'élargir le spectre. Quand on m'a proposé de faire cette mission sur la place des femmes dans les sciences, on m'a dit, bon, ça va porter sur l'enseignement supérieur et les carrières scientifiques. Oui, mais non, on ne va pas s'arrêter à là, on va remonter un petit peu en amont. Et c'était pas forcément la volonté au départ, mais en fait, on l'a fait quand même. Et on est remonté jusqu'aux premières années d'émancipation, de vecteur d'émancipation. Et une des recommandations, c'était notamment d'encourager à la représentation mixte des jouets, notamment des jouets scientifiques. Yeah. Et je suis contente parce que ça, c'était une des 23 recommandations de ce rapport. Et ça a été mis en place l'année dernière par Agnès Pannier-Runacher, qui a réuni les fabricants, distributeurs et publicitaires du monde des jouets pour une charte où ils s'engagent à pouvoir décliner eh bien, le fait qu'il n'y ait pas une version fille, parce que ce serait qu'un jouet pour les filles, mais vraiment de travailler à cette mixité. Et ça, pour moi, c'est très important. Peut-être que je suis nostalgique des jouets, j'ai beaucoup joué, mais je pense que j'ai joué aussi bien avec des voitures qu'avec des poupées Barbie. Donc voilà, il faut s'aménager tout. Et donc, c'est ça qui me caractérise, c'est d'essayer d'aller remonter un peu aux racines et de faire que les gens aient le choix.
Ouais, super, c'est vrai, c'est un beau combat, bravo. C'est intéressant aussi. Des regrets, peut-être, depuis que vous êtes élue?
Des regrets, je pense que je ne ferai pas le début de mandat de la même façon que ce que j'ai fait. Je pense qu'aujourd'hui, je sais peut-être plus aller à l'essentiel et je mesure que j'ai pu consacrer du temps à des choses peut-être où je me dirais bon, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas forcément complètement le plus efficace. Peut-être que aujourd'hui je n'appréhenderais pas la même façon. Et d'ailleurs, ça a évolué pendant le mandat, hein, parce que on n'attend pas 5 ans pour se dire ah, je ferai autrement. Mais je pense que effectivement ça, on se dit bon, comment je peux orienter mon action d'une manière plus efficace. On évolue, et heureusement. Mais pas tellement de regrets, parce que l'opportunité quand même de devenir députée de notre nation est quand même assez rare. On n'est pas non plus des milliers et des milliers. Donc c'est un véritable honneur. Le fait de pouvoir être comme ça en véritable contact avec la société, c'est intéressant. Et puis surtout de la changer, c'est encore plus intéressant. Donc il n'y a pas de regret. Je suis assez fière d'avoir pu travailler sur des sujets qui me tiennent à cœur, ceux de l'égalité. Non, voilà, je pense que c'est plutôt ça, c'est de se dire « Ah, peut-être que j'aurais perdu moins de temps au début du mandat en allant tout de suite à ça, c'est efficace, c'est essentiel, on le fait. »
Dernière petite question, si vous le voulez bien. Quel est votre objectif d'ici à la fin de ce mandat?
D'ici à la fin de son... d'être en capacité de me représenter et de gagner.
Ah, j'allais vous poser, c'était la dernière question. Donc, vous vous représentez, a priori.
En fait, moi, j'aimerais être en capacité de le faire. Donc, être en capacité de le faire, c'est non seulement de pouvoir se faire réinvestir, mais aussi d'avoir suffisamment convaincu auprès de mes concitoyens, parce qu'on a une circonscription, que je porte haut leur couleur, de bien faire comprendre aussi que, eh bien, quand on est député, on représente la nation, on porte la voix des habitants de la circonscription, mais on ne peut pas non plus être simplement à regarder quels peuvent être les enjeux qui sont plutôt de l'ordre de compétences des élus locaux. Par contre, ce que moi, je m'emploie à faire, c'est qu'on essaye de faire davantage de liens entre parfois des acteurs locaux qui discutent pas forcément ensemble, ou de donner un coup d'impulsion pour qu'ils soient davantage... écouter au niveau national. Et donc, c'est des problématiques d'aménagement dans le cadre du Grand Paris. C'est le fait d'attirer l'attention du ministère sur des bijoux du patrimoine qui sont encore ignorés. Enfin, voilà, c'est aussi ça. Donc, il faut le faire, il faut le faire savoir. Et pour moi, c'est l'objectif. Ouais.
Super. Merci beaucoup, Céline Calvez, pour cet entretien. Très
Merci.
Très riche. Et peut-être à bientôt, mais à bientôt sur Popol déjà.
Voilà.
Et très belle soirée. Merci beaucoup d'être venue nous parler un peu de vous et de votre parcours, de votre actualité. Et à très vite.
Avec plaisir. Merci. À très vite.
Au revoir.
Bonne soirée.
Merci.
C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.